94.9.
Eh ben ça y est, c'est la prise de l'antenne. Enrique, tu me fais peur en fait, parce qu'avec ton émission acrobatique que tu viens de réaliser avec brio, j'ai un peu de crainte en ce qui concerne Biotine, l'émission de science et de technologie. Ce n'est pas parce qu'on parle de technique dans cette émission que nous sommes des experts de la technique, en tout cas moi non. Donc je vais demander à Mathéo de rester à côté de moi si on a vraiment des pépins pendant cette heure d'émission en direct. Bonjour à tous, ça y est, c'est la rentrée, c'est déjà la 10e saison de Biotine sur antenne de graphite, ça passe mes enfants. Et toujours l'émission de rentrée, la première émission, il y a toujours quelque chose de particulier qui se passe parce qu'on a oublié nos repères, parce que les 36 000 boutons qu'il y a devant nous, on ne sait plus à quoi ils servent, parce qu'on est encore dans une situation sanitaire complexe qui nous rajoute en plus des gestes barrières qu'il va falloir maîtriser, si bien que du coup je n'arrive plus à assurer, mais tout devrait aller. Vous êtes sur l'antenne de Graphite 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur internet. Vous êtes très nombreux et nous allons essayer de battre le record de l'émission Vibration SOS, parce qu'on va faire en sorte qu'on nous écoute sur la station spatiale internationale, et dans ces cas-là, à mon avis, on aura gagné tous les records. Vous souhaitez réagir par SMS exclusivement, n'hésitez pas. 06 95 065 026 06 95 065 026. On a en plus des nouveaux sièges qui... on est bien dans ce studio finalement, c'est agréable et on est même... Et c'est, je crois que c'est la première fois que ça se passe. Merci Mathéo. Nous sommes en direct sur la page Facebook de Graphite, c'est-à-dire en direct en vidéo. En plus, il va falloir gérer l'image. Merci, c'est quand même assez formidable. Nous allons parler de l'actualité scientifique, comme donc depuis un peu plus d'une décennie sur cette antenne. On sait très bien que cette année 2020 est quand même un peu particulière, parce que d'un point de vue scientifique, on en parle un petit peu tous les jours, on en parle peut-être un petit peu trop. N'oubliez pas ce que l'on avait dit lors de la reprise de l'antenne après cette période de confinement et d'arrêt des émissions. Le temps de la science n'est pas le temps de notre société actuelle. Ce n'est pas le temps médiatique, ce n'est pas le temps des réseaux sociaux. La science doit, et c'est nécessaire, prendre son temps. Et du coup, il ne faut pas s'étonner que l'on n'arrive pas à obtenir tout de suite les réponses aux questions importantes qui sont totalement nécessaires et qui peut-être sont même assez inquiétantes. On n'a pas toutes les réponses. Et objectivement, quand on écoute un petit peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur les médias traditionnels, objectivement, on entend tout et n'importe quoi. Faites attention, prenez du recul, parce que finalement une information que l'on a eue le jour J peut parfois être contredite le lendemain. Et c'est normal, parce que la science doit, pour pouvoir développer des solutions thérapeutiques et en l'occurrence des vaccins, prendre son temps. On est dans une démarche de recherche expérimentale, c'est-à-dire qu'on pose des hypothèses, celles-ci sont peut-être pas bonnes, il faut les tester. Donc il va falloir être patient et pendant ce temps-là essayer de se protéger, essayer de protéger les autres. En fait, on a un peu l'impression que cette période compliquée du coronavirus nous met un petit peu face à nos propres comportements vis-à-vis des autres, et c'est peut-être ça qui nous perturbe, le respect des autres. Effectivement, on découvre ça et c'est pas toujours simple pour plusieurs personnes. Cette émission Biotine, depuis le début, a pour vocation de parler de l'actualité scientifique, de voir un petit peu ce qui se passe dans les différents domaines. Mais merci Enrique, merci. Je garde les ondes positives pour cette émission, j'espère que tout va marcher. Cette émission, donc depuis le début, a justement pour vocation de parler de différents domaines de l'actualité scientifique, médicale, spatiale, nouvelles technologies, énergie, développement durable, toutes ces choses-là, et puis aussi un petit peu l'aspect, on va dire... un peu ludique, un petit peu insolite également, parce qu'il faut que la science nous fasse un petit peu rire, elle n'est pas tout le temps rébarbative. C'est ça le but de cette émission. Nous allons aujourd'hui parler quand même du coronavirus, parce que c'est quand même un petit peu particulier. Donc une émission qui parle d'actualité scientifique sans parler de la Covid-19, ça serait quand même dommage. Mais on va quand même parler de Gertrude, ce magnifique cochon de Elon Musk. On lui a planté quelque chose dans le crâne pour essayer de voir comment ça fonctionne. C'est quand même assez formidable. On va parler d'une bactérie terrienne qui pourrait pourrait contaminer la planète Mars. Oui, parce que finalement, on se dit que, que la planète Terre, pour la polluer, maintenant c'est bon, on va aller voir ailleurs ce qui se passe. L'alerte du magazine 60 millions de consommateurs sur la composition des produits cosmétiques. Encore un cas concret du réchauffement climatique. Et puis, on parlera aussi de cet astéroïde qui devrait s'écraser sur Terre le 2 novembre 2020. Je crois que le 2 novembre 2020, c'est un lundi, il me semble. Donc c'est bien calculé, on pourra profiter de notre week-end et puis après on a l'astéroïde le lundi. C'est pas mal, c'est ça le programme que je vous propose dans cette émission. Je sais même pas si on aura le temps de tout parler d'ailleurs, mais en tout cas, si on est là pour encore toute une saison, tous les samedis, entre 12h et 13h, si on n'a pas le temps d'évoquer toutes ces actualités, on aura l'occasion pour les émissions futures, bien évidemment. 06 95 065 026 pour ceux qui souhaitent réagir par SMS. Il va falloir que je gère les SMS aussi en même temps. En fait, il faut que j'ai 36 000 bras. Et puis donc la vidéo également pour ceux qui souhaitent nous suivre. Et c'est une première sur le Facebook Live, sur la page Facebook de Radio Graphite. Nous sommes aujourd'hui le 12 septembre, journée des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud. En fait, j'ai pas compris ce que ça voulait dire, la coopération Sud-Sud, donc j'ai quand même regardé. Et en fait, c'est un petit peu instaurer une coopération technique au niveau entre les pays du développement du Sud. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment, on se localise sur le Sud. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va mettre en place des systèmes de collaboration, un partage des connaissances dans différents domaines spécifiques, notamment scientifiques, mais également au niveau du développement agricole, des droits de l'homme, la santé, l'urbanisation, le climat. Donc c'est cette journée spécifique aujourd'hui des Nations Unies. 12 septembre 1909, le chimiste allemand Fritz Hoffmann dépose donc en 1909 le brevet du premier caoutchouc synthétique. Voilà, le caoutchouc, le plastique, c'est fantastique. Et le caoutchouc super doux, c'était en 1909. En 1962, le président des États-Unis, c'était Kennedy à l'époque, il prononce son fameux discours retentissant « We choose to go to the moon ». Oui, j'ai un accent anglais qui ne s'est pas amélioré pendant les vacances, on est bien d'accord, mais en tout cas, à l'époque, le 12 septembre 1962, il prédisait le fait qu'il y aurait un homme, un Américain, bien évidemment, qui poserait le pied sur la Lune avant la fin des années 60, et c'était le cas en 69. Et enfin, en 1966, c'est le début de la mission Gemini 11. Elle est la première mission à réaliser un rendez-vous spatial au cours de la première orbite et détient le record de la plus haute orbite pour une mission habitée en 1966. Donc quand même, déjà à l'époque, on était assez bien avancé. On va parler de la naissance, le 12 septembre 1725, ça ne nous rajeunit pas, de Guillaume le Gentil de la Galésière, qui est quand même franchement un nom qu'on a quasiment jamais entendu parler. Et c'est un astronome français. Et sa vie, elle est quand même franchement assez intéressante parce que c'est un petit peu le Pierre Richard, on va dire, du XVIIIe siècle, parce qu'il est resté célèbre pour sa grande malchance. C'est un astronome, comme je vous l'ai dit, et donc il prévoyait d'entrer au départ dans les ordres, il avait prévu ça, puis finalement il s'est dit non, je vais plutôt être astronome. Je ne sais pas trop pourquoi, mais en tout cas, il est devenu célèbre pour le sort un petit peu de malchance qui tombe sur lui quand il est en place pour observer le transit de Vénus. Alors le transit de Vénus, entendons-nous bien, c'est un événement astronomique vraiment rare qui permettait de déterminer un petit peu la distance Terre-Soleil. Donc il s'est dit, je vais aller à Pondichéry, qui était un comptoir français en Inde à l'époque, et compte tenu du voyage, parce qu'il n'y avait pas le canal de Suez à l'époque, il s'est dit, il faut que je prenne le temps. Donc il se prend une marge assez confortable de 15 mois pour son voyage. Il dit, comme ça j'aurai le temps d'arriver pour pouvoir assister à ça. Donc il part de Paris, nous sommes en mars 1760, et il atteint ce qu'on appelait à l'époque l'île de France, qui est en fait l'île Maurice aujourd'hui, en juillet. Et de là, il embarque sur la frégate rapide qui s'appelle la Sylphide pour essayer un petit peu d'aller à Pondichéry. Mais le navire, quand il est proche de sa destination, il y a les occupants qui apprennent que c'est la guerre de 7 ans qui a déclaré entre la France et le Royaume-Uni et que c'est un petit peu dangereux quand même d'aller s'aventurer à Pondichéry. Donc la frégate reprit la route de l'île Maurice et en pleine mer, donc le jour où justement cet événement astronomique rare a lieu, le bateau est tellement en train d'être secoué qu'il ne peut absolument rien voir, rien faire aucune observation. Ça tombe à l'eau. Il est obligé d'attendre 8 ans, parce que le prochain événement est 8 ans plus tard. Donc il se dit, très bien, je vais rester dans le coin, je vais rester dans les Indes. 8 ans après, il s'installe et il a quand même pas de chance parce que tous les jours, il y a un temps magnifique qui permet d'observer le ciel et le jour précis du 3 juin 1769, en fait, le ciel est totalement nuageux, il ne voit absolument rien. Donc il a loupé 2 fois cet événement astronomique rare, qui est quand même pour un astronome un petit peu dommage, si bien qu'il fait une grande dépression par la suite, parce qu'il se dit « j'ai quand même pas de chance et je vais quand même revenir en France ». Il revient en France, je crois, près de 12 ans après, et qu'en fait, quand il revient en France, personne ne savait qu'il était encore vivant. Tout le monde a cru qu'il était mort, parce que quand il envoyait des lettres, elles sont jamais parvenues. Donc on a liquidé tous ses biens. Il était membre de l'Académie royale des sciences. Comme on a cru qu'il était mort, on l'a dégagé son siège, en a mis quelqu'un d'autre à la place. Et il a fini sa vie par des procès pour essayer de récupérer ses biens qu'il n'a jamais récupérés. Il a récupéré grâce au roi son siège à l'Académie royale des sciences. Voilà, c'est quand même une vie assez particulière, celle de Guillaume le Gentil de la Galésière. L'Union astronomique internationale a donné le nom à Le Gentil, à un cratère lunaire en 1935. C'est vrai que ça peut être quand même le moindre des hommages qu'on peut lui faire à cet astronome Guillaume Gentil de la Galésière. L'émission Biotine d'actualité scientifique vous propose toutes les semaines de parler de l'actualité scientifique. Je m'appelle Jean-Noël, je ne me suis même pas présenté parce que je suis tellement une star que tout le monde a l'impression que tout le monde me connaît, mais non. Mais je suis parfois pas seul. On m'accompagne aussi. Carole, Anne-Fleur, Peggy me rejoindront en cours de saison, bien évidemment. Et comme on parle de femmes, on va quand même honorer Françoise Combes qui a reçu la médaille d'or du CNRS. C'est l'une des plus prestigieuses récompenses scientifiques françaises. Elle est astrophysicienne. Elle est une grande spécialiste des galaxies et de la cosmologie, et donc elle est lauréate du prix de la médaille d'or du CNRS. On en a pas mal parlé ces derniers jours, parce que c'est à la fois un titre prestigieux qui récompense quand même quelqu'un qui a fait des véritables avancées dans ce domaine-là. On reste dans les étoiles, bien évidemment, mais en tout cas, il était important d'honorer Françoise Combes. Je ne sais pas quel âge elle a, mais elle travaille encore, et si vous êtes un peu des passionnés de ce domaine-là, elle a, alors c'est pas une page Facebook, mais en tout cas, la possibilité de mettre ses cours en ligne et des vidéos également, donc ça peut être intéressant si vous le souhaitez, pour pouvoir un petit peu découvrir ce domaine-là de façon un peu plus approfondie. 06 95 065 026, on va écouter un petit titre pour nous remettre de ces émotions, et puis juste après, on va quand même faire un petit peu le point sur le coronavirus. Plus précisément au niveau des vaccins, parce qu'il y a des choses que l'on attend bien évidemment dans ce domaine-là. On fait le point juste après ce titre, à tout de suite. Oh,
J'irai voir le lever du jour, mais comme toujours, j'irai trop tard. Les chats sont dans la cour. Le même jour, la même promesse de l'éternel retour.
Les dieux fous, c'était le Colisée sur l'antenne de Graphite. C'est doux, c'est agréable, c'est ce qu'il nous fallait pour un samedi midi sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine, l'émission de science et de technologie, tous les samedis entre 12h et 13h sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et sur graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet un petit peu partout dans le monde apparemment. On a vu ça avec Enrique. Et que ce soit en direct, mais également en différé, vous avez bien sûr la possibilité de pouvoir récupérer tous les podcasts des émissions de Graphite. Et il me semble qu'il y a aussi des rediffusions, c'est toujours rediffusé. Je regarde Mathéo en fait, parce que du coup, je ne suis pas habitué d'avoir quelqu'un dans le studio, je suis très souvent seul. On est donc rediffusé le mardi matin, donc l'éphéméride n'aura aucun sens mardi matin, mais c'est pas grave, vous vous dites que vous êtes samedi à midi, et ça devrait le faire. On va parler de la Covid-19 et notamment des vaccins. Il y a plus de 150 vaccins qui sont actuellement en développement à travers le monde. Il y en a 5 qui ont franchi le stade de phase 3. C'est la dernière étape qui vise à vérifier l'efficacité du vaccin à grande échelle. C'est-à-dire qu'en fait, on fait des essais sur 30 à 40 000 personnes. C'est la dernière étape avant la demande d'autorisation de mise sur le marché. Alors, il y a quand même pas mal de communication sur ce sujet-là. La Russie a par ailleurs annoncé, c'était le 12 août dernier, que le premier vaccin contre le coronavirus, qui était baptisé Sputnik 5, je trouvais ça quand même assez extraordinaire, eh bien, il y a eu un grand effet d'annonce, mais alors on ne sait absolument rien sur l'efficacité réelle du virus. Vous avez bien compris qu'on est maintenant dans une phase de communication avec les grands États qui vont essayer, non pas comme on l'évoquait tout à l'heure Kennedy, être le premier à arriver sur la Lune, mais c'est le premier État qui va être en mesure de pouvoir proposer un vaccin. C'est un vrai problème de ne pas savoir un petit peu l'efficacité réelle des virus, parce que il suffit pas de développer un vaccin qui marche un petit peu, j'allais dire, sur le papier, parce qu'il faut quand même qu'il induise une réponse immunitaire suffisante et chez un grand nombre de patients, et c'est loin, très loin d'être évident. Le vaccin contre la grippe, par exemple, on va prendre cet exemple-là, et on en avait parlé dans cette émission en début d'année, je crois janvier-février. Le vaccin contre la grippe, il a une efficacité très variable selon les années. Par exemple, en 2016, son taux d'efficacité n'a même pas dépassé à peu près 30%, ce qui n'est pas énorme, parce qu'il y a eu une mutation totalement inattendue de la souche dominante. En fait, le vaccin contre la grippe, quelque part, on fait une prédiction l'année d'avant sur les souches dominantes de l'année d'après. Puis parfois, les prédictions ne sont pas toujours bonnes, ce qui fait qu'on arrive parfois à des années assez mauvaises en termes de taux d'efficacité. Même si le vaccin ne mute pas, il n'existe pas de vaccin qui va protéger à 100%. Il faut être totalement conscient de ça. Le meilleur vaccin actuel, c'est celui contre la rougeole, qui offre une protection à peu près entre 93 et 98%, ce qui est quand même pas mal, mais ce n'est pas du 100%. Et donc, dans ce contexte, on s'est posé la question de savoir quelle devrait être l'efficacité d'un vaccin contre la Covid-19 pour essayer d'enrayer cette épidémie. Et comment on détermine l'efficacité d'un vaccin ? C'est un petit peu le pourcentage de réduction de la maladie qu'on va attribuer, cette réduction, à cette vaccination. Il y a plusieurs types de mesures. Il y a une efficacité qui va être un petit peu mesurée dans le cadre des essais cliniques un petit peu randomisés. Et puis il y en a qui vont plutôt être dans une prise en compte aussi des conditions réelles d'utilisation. Il n'empêche que les calculs, les méthodes de calcul peuvent être différentes. Il faut quand même aboutir à des résultats assez significatifs. Il y a donc des chercheurs de New York qui ont effectué des simulations pour établir à partir de quelle efficacité le vaccin stopperait la propagation de la maladie. Et selon leurs calculs qui ont été publiés dans une revue scientifique assez importante, American Journal of Preventive Medicine, ils estiment que l'efficacité du vaccin devra être d'au moins 60% pour éteindre l'épidémie en cours. Attention, dans le cas où toute la population est vaccinée. Donc on a quand même une condition de départ assez importante. Si la couverture vaccinale, cette fois, elle descend à 75%, c'est-à-dire que les trois quarts de la population est vaccinée, ce qui semble être plus probable, eh bien, il faudrait que l'efficacité du vaccin monte à 80%. Donc, on se rend compte derrière qu'il y a quand même des chiffres à prendre en considération qui sont assez importants. Et du coup, ces chercheurs ont communiqué donc dans cette revue scientifique. Et ce que j'adore, c'est que le responsable chef de ces chercheurs, le responsable du laboratoire, s'appelle Bruce Lee. Faut quand même, il y a des moments où on se dit quand même que je sais pas, il y a des signes du destin qui sont quand même assez formidables. Et donc Bruce Lee parle et explique que tout cela suggère qu'un vaccin seul ne permettra pas un retour à la normale, c'est-à-dire un retour à la normale, le fait qu'on s'affronte des gestes barrières et de la distanciation sociale, à moins d'un taux d'efficacité très élevé et d'une couverture vaccinale qui semble totalement irréaliste. Cela ne veut pas dire pour autant qu'un vaccin avec une efficacité moindre ne serait pas utile, parce que l'objectif de ce vaccin, même s'il est moins efficace, permettrait quand même de réduire l'engorgement du système de santé. Et donc les chercheurs, ils ont essayé de calculer qu'un vaccin efficace à 40%, c'est-à-dire quand même dans un taux d'efficacité assez réduite, permettrait quand même d'éviter près de 100 000 jours d'hospitalisation et permettrait également d'épargner près de 3 millions de personnes qui seraient mises sous ventilation artificielle. Donc voilà, il y a des chiffres aussi à prendre en considération dans cette course au vaccin qu'on n'évoque pas nécessairement en fait, parce que le vaccin à 100% n'existe pas, et là on ne sait pas encore l'efficacité des vaccins qui sont en cours de préparation. Je vous dis, il y en a 150 qui seraient actuellement en développement, et il y en a 5 qui auraient officiellement franchi un petit peu la... Enfin, qui sont en train d'être dans la dernière étape avant un accord d'autorisation de mise sur leur marché. Autre paramètre à prendre en considération également, et c'est ce qui a été évoqué dans cet article, c'est la couverture de la population en termes de vaccins. Et en fait, l'IFOP, Institut de sondage, a conduit un sondage sur environ 20 000 personnes en provenance de 27 pays du monde entier pour essayer de partager leur impression sur la vaccination contre la Covid-19. Et ce sondage prenait la forme de ce qu'on appelle une échelle de Likert. C'est-à-dire que graphiquement, on voit des barres de couleurs. Et plus on est dans une satisfaction, par exemple, quand on est dans un taux de satisfaction importante, on a des barres de couleurs qui sont de plus en plus prononcées. Graphiquement, c'est très joli, mais sur graphite, c'est totalement impossible à expliquer. Mais en tout cas, on a essayé d'avoir une information sur l'impression des participants qui devait indiquer s'ils étaient tout à fait d'accord, pas d'accord, ou alors totalement désaccord avec des affirmations autour de la vaccination anti-Covid. Alors, point de départ d'une façon un peu uniforme, quel que soit le pays. Trois quarts des participants sont en accord avec la phrase « Si un vaccin pour la Covid-19 était disponible, je me ferais vacciner ». Donc oui, on n'a que trois quarts qui déjà seraient d'accord avec le fait de se faire vacciner, ce qui veut dire qu'un quart refuserait de se faire vacciner. Et si on va en détail un petit peu plus au niveau des pays, c'est en Chine que les intentions de vaccination sont les plus importantes. 97% d'opinions positives sur un vaccin anti-Covid-19. C'est quand même un chiffre assez important et qui interpelle un peu. Et puis, si on va de l'autre côté un petit peu des résultats, les Français ne sont que 22% à exprimer une intention ferme de vaccination, plus 20% qui seraient totalement défavorables. Donc, vous voyez, quels que soient les pays, il y a une acceptation du fait de se faire vacciner plus ou moins prononcée. Et c'est ça aussi qu'il va falloir prendre en considération également. C'est l'IFOP donc qui a conduit ce sondage et qui permet de donner un petit peu une image pays par pays instantanée. C'est un sondage qui date du début du mois d'août et qui permet d'avoir une photographie instantanée de l'acceptabilité des vaccins. Parce qu'il y a des vraies disparités entre ces pays. Dans certains d'entre eux, les participants se sont prononcés comme étant anti-vaccins en général à des pourcentages qui sont quand même pas négligeables. La Russie, l'Italie, et donc je vous l'ai dit, la France également. Et Ipsos, qui est également un autre institut de sondage, un organisme qui gère un petit peu les sondages et permet d'avoir une image sur un échantillon de personnes pour essayer de donner un petit peu l'idée des intentions de chacun. Ipsos souligne le fait que pour la France, l'échantillon est assez représentatif de la population générale âgée de moins de 75 ans. C'est-à-dire qu'en fait, on a aussi le critère de l'âge qui est à prendre en considération dans l'acceptation du vaccin. Bref, cet article donne toute une flopée de chiffres que je vais vous épargner à 12h30, ça serait quand même un petit peu violent, mais le résultat et la conclusion de tout cela quand on parle de la Covid-19, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on est dans une phase maintenant où on va essayer de développer un vaccin. On le voit très bien, ça communique pas mal sur ce sujet-là, on nous donne parfois aussi des délais totalement ubuesques, je défie quiconque mettre un vaccin la veille des élections américaines, par exemple. Je veux dire, c'est un coup marketing original, mais qui est totalement faux d'un point de vue scientifique. Donc il va falloir attendre, pas avant 2021. Ça, c'est immuable. Et 2021, peut-être pas janvier. Il faudra peut-être attendre un petit peu plus en cours d'année. On suivra bien sûr dans Biotine, pendant cette saison, l'évolution sur ce sujet-là. Mais il va falloir développer un vaccin, faire en sorte qu'il soit efficace et faire en sorte qu'il soit accepté. Donc on a quand même encore pas mal de choses à mettre en place. Il y a des choses qui s'écrivent, qui se diffusent sur certains réseaux sociaux, qu'il va falloir essayer également d'expliquer. On est, en fait, cette année 2020 est assez intéressante parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un véritable manque de culture scientifique et que du coup, c'était à celui qui parlait le plus rapidement ou le plus fort ou avec une meilleure audience qui semblait être, d'une façon générale, je suis dans la généralité bien évidemment, le plus écouté et donc peut-être le plus influençable, on va dire, vis-à-vis de la population. Il va falloir mettre en place en fait aussi une éducation à la science, ce qui est un exercice assez difficile parce que il va falloir aussi prendre le réflexe de prendre le recul dans une société où on veut tout de suite. Alors Je parle de patience et c'est pas toujours simple, et je parle de recul et je parle d'analyse des choses, c'est ce qu'on essaye modestement dans cette émission de mettre en place depuis plusieurs années bien évidemment. Voilà ce que j'avais envie de dire sur la situation du coronavirus. Je salue Carole qui nous rejoindra bientôt. Carole, je te confirme que normalement ce sera possible que tu nous rejoignes vers le mois d'octobre pour animer avec moi cette émission. Parce que Matteo est bien gentil, mais il est quand même pas trop bavard. C'est pas grave. Techniquement, il est quand même à la pointe. Il est à la pointe et c'est très bien. Oui, je vais faire attention. Allez, il est 12h32. On va écouter peut-être un autre titre. Alors, oui, peut-être que je m'occupe de ça. Oui, parce que je suis à la fois réalisateur, programmateur musical. En fait, on fait des choses formidables dans cette émission. Allez, je vous mets ce titre-là que je vais découvrir en même temps que vous. C'est Louis Aguilar. Et en plus, il est picard. Ça n'est pas fait exprès, je vous jure. À tout de suite sur l'antenne de Graphite.
An alien, and what you are saying is true. But I'll never stop believing, I'll never stop believing in you. Oh, but it won't be happening if you don't start breathing too. Oh no, it won't be happening if you don't start breathing too. Will you miss me when I'm gone? Will you be happy all alone? Will you see me dead in your dreams? Will you hear my heart when it screams?
Aguilar sur l'antenne de Graphite avec When I'm Gone. Vous écoutez Biotine, l'actualité scientifique et technologique tous les samedis entre 12h et 13h sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM dans l'Aisne, l'Oise, la Somme et puis graphite.net pour ceux qui nous écoutent mais partout, mais même au niveau de la Station Spatiale Internationale. Je ne sais pas s'ils ont Internet. En fait, j'étais en train de me poser la question. Ils arrivent bien à communiquer avec la Terre, donc ils vont pouvoir communiquer avec graphite et ils ont peut-être au niveau de la Station Spatiale Internationale des smartphones qui vont leur permettre de nous envoyer des SMS. 06 95 065 026 06 95 065 026. Toi, par exemple, Brian nous dit joyeux 10 ans de graphite parce que c'est la dixième saison, effectivement. Alors, ça avait démarré en 2008, mais il y a eu une petite pause. Mais quand même, dixième saison. Et même au bout de 10 ans, je découvre encore techniquement plein de choses. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, dans ce studio. C'est ça qu'il nous faut. Il est 12h38, merci de votre fidélité et de votre attention. On essaye de parler d'actualité scientifique pendant que vous êtes en train de déjeuner. Je vous souhaite un bon appétit et j'essaye toujours de choisir des sujets, je dirais, que l'on peut écouter pendant qu'on est en train de déjeuner. Et puis là, je vais quand même vous parler de Gertrude. Parce que Gertrude a été une grande star internationale il y a quelques jours. Vous l'avez peut-être vu, il s'agit, je dirais, d'une truie. J'allais dire une cochonne, on va plutôt dire une truie, ça sera quand même beaucoup plus approprié, que l'on a vu derrière Elon Musk. C'était le 28 août dernier. Il dit, puisqu'il est assez enthousiaste, hein, Elon Musk, on le connaît, il a toujours des idées, et puis il y a une façon aussi de communiquer assez intéressante. Et là, il dit, c'est comme une montre connectée dans votre crâne. Alors déjà, cette phrase-là, elle est totalement effrayante parce qu'on est en train d'imaginer une montre connectée dans le crâne. C'est ce qu'il a dit lors d'une conférence en ligne sur les progrès de son projet d'interface. Une interface qui va relier le cerveau aux ordinateurs. Et alors, ce projet, eh bien, suscite beaucoup de scepticisme dans la communauté scientifique. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, parce que c'est toujours intéressant quand il y a un genre de controverse un petit peu d'un point de vue scientifique. En fait, Elon Musk a présenté il y a un an une puce dotée de fils ultra fins qui peut être implantée dans le cerveau par un robot. Et donc, ça fait un petit peu de système de machine à coudre ultra précise. Ce nouveau modèle sans fil, grâce à la technologie Bluetooth, c'est ça qui est formidable, se recharge la nuit. Comme ça, on n'a plus rien à faire, on n'a pas à se brancher à côté d'une prise. Parce que si tu n'as pas de prise à côté de ton lit, tu es quand même un peu bloqué, donc ça se refait tout seul. C'est un nouveau modèle qui ressemble un petit peu à une pièce de monnaie, hein, 23 mm de diamètre, 8 mm d'épaisseur, un peu comme, vous savez, les piles boutons, quelque part, c'est un petit peu ça. Et en théorie, cette puce ronde sera implantée dans le cerveau sans qu'il y ait besoin de passer une nuit à l'hôpital, sans laisser de traces. Il y a une toute petite cicatrice dans les cheveux, hein. Enfin bon, c'est vraiment... On vous donne tous les arguments pour vous faire implanter cette puce. C'est-à-dire, quelque part, ça donne presque envie de l'avoir. Et cette puce, elle servira d'abord à traiter les maladies neurologiques. Des personnes pourraient alors débourser quelques milliers de dollars aussi pour doter leur cerveau d'une espèce de puissance informatique. Et c'est ça qui fait un petit peu rendre sceptiques certains scientifiques. Pour l'instant... Dans les laboratoires Neuralink d'Elon Musk, Neuralink, donc Neura, neurone, Link, lien, donc on comprend un petit peu l'idée derrière, eh bien, dans ces laboratoires, il y a cette magnifique Gertrude, un cochon qui marche sur un tapis roulant. On lui a donné à manger, hein, il a le groin qui est dans une mangeoire qui est accrochée devant elle, et puis pendant ce temps-là, pendant qu'elle est en train de manger sur ce tapis roulant, il y a une puce qui retransmet les signaux neurologiques. Et à partir de ces informations, il y a un ordinateur qui est capable de prédire à tout instant où se trouve chacun des membres de cette chère Gertrude. Ça donne l'espoir aussi, quelque part, dans l'idée de rendre la mobilité aux personnes paraplégiques. C'est-à-dire qu'évidemment, on est toujours dans cette idée un peu loufoque d'un côté, exubérant de l'autre, mais avec des avancées technologiques importantes derrière. En cas de lésion de la moelle épinière, eh bien, il y aurait une autre puce qui pourrait être implantée à l'endroit de la blessure et ça permettrait ainsi de contourner les circuits de transmission qui seraient endommagés. C'est ce qu'explique Elon Musk, c'est ce qu'il imagine, c'est ce qu'il prédit en tout cas. Sur le long terme, je suis certain qu'on pourra retrouver l'usage complet de son corps. C'est ce qu'il annonce. Alors, il y a de nombreuses entreprises qui travaillent sur le contrôle des ordinateurs par la pensée, et il y en a d'autres aussi qui travaillent sur ces interfaces entre le cerveau et la machine. Tout ça est en cours de développement, et en fait, il y a aussi une communication plus ou moins prononcée et avancée sur ces sujets-là. Facebook finance ainsi un projet pour traduire en mots l'activité du cerveau via des algorithmes, afin de rendre la parole aux personnes rendues muettes à cause de maladies neurodégénératives. Donc, c'est quelque part un sujet de science-fiction, mais qui donne des perspectives quand même totalement bluffantes, il faut l'avouer. Il y a de nombreux scientifiques qui rappellent quand même que le cerveau n'est pas aussi compartimenté qu'on aimerait le croire. Chaque cerveau a une structure unique, massivement interconnectée. C'est ce qu'a expliqué notamment Dan Burnett, chercheur à l'université de Cardiff, en amont de la conférence, qui se dit un petit peu sceptique sur les véritables avancées de ce projet Neuralink d'Elon Musk. L'objectif, en fait, avec cette présentation qui a été faite sur YouTube et que vous pouvez découvrir également, c'était bien sûr avant tout de séduire et de recruter des nombreux ingénieurs, chirurgiens, chimistes, spécialistes de la robotique, d'autres également chercheurs qui pourraient rejoindre un petit peu cette start-up qui ne compte que pour l'instant une centaine de salariés. Mais Elon Musk espère avoir 10 000 personnes dans cette communauté scientifique aussi vite que possible pour essayer de relever cette montagne de défis, de challenges qu'il va falloir relever. La puce informatique doit être protégée contre les perturbations externes, les interférences sur les ondes, la puissance des signaux, puis aussi un petit peu les perturbations internes à l'intérieur du corps. Ces communications, notamment avec un smartphone ou une autre machine, il faut que ça soit aussi inviolable, c'est-à-dire qu'il faut absolument pas que l'on puisse récupérer les données et qu'on puisse les intercepter, les pirater. Donc il y a pas mal d'éléments qu'il va falloir gérer également. Donc derrière, il y a quand même toute une démarche scientifique qu'il va falloir mettre en place. Et effectivement, et là, il est dans une phase à la fois de communication, on l'a bien compris, mais une phase de recrutement également. Et puis, il y a aussi quelque part... il va falloir mettre aussi développer ça. Il y a aussi des instances de régulation qui vont freiner plus ou moins. Notamment, ça a été le cas pour les voitures autonomes de Tesla. C'est-à-dire qu'on est dans des calendriers qui sont en train de déraper. Elon Musk avait pris la parole l'année dernière, en juillet 2019, et il avait dit « Vous verrez, ça va se faire en 2020. » En 2020, c'est aujourd'hui, ça ne se fait pas encore. Il y a ce cochon qui est en train de manger et qu'on essaye de voir un petit peu comment on peut récupérer les informations, mais ça s'arrête là. On est en retard. Mais c'est pas parce qu'on est en retard que Elon Musk, ça va le refroidir. Non, non, au contraire, ça l'enthousiasme et on est en train de courir après des calendriers qu'il va falloir gérer également. C'est un projet parmi tant d'autres d'Elon Musk. Il veut coloniser Mars. Il veut aussi, en fait, un petit peu que l'on soit, nous humains, un petit peu des chats domestiques des ordinateurs. C'est une société étrange et inédite qui souffle devant nous, mes chers enfants, faisons attention. Bref, on est là dans une étape assez intéressante parce que si vous suivez cette émission depuis quelques années, on est de plus en plus dans du concret face à, au départ, des objectifs qui étaient totalement surréalistes. Et on est de plus en plus dans des recherches concrètes qui se font sur le cerveau. L'une des difficultés, en fait, c'est justement le cerveau. Le cerveau que l'on ne connaît pas, finalement. Et il va être difficile de pouvoir développer des technologies sur un organe qui n'a pas encore dévoilé toute sa complexité. Et cela aura véritablement un impact dans la dérive de ce calendrier qu'il va falloir gérer pour Elon Musk. En tout cas, j'avais envie aussi pour cette émission de rentrée de pouvoir vous parlez d'Elon Musk, on essaiera de suivre également. En fait, on a plein de choses à suivre pendant cette saison. Cette saison 2020-2021 va être géniale. On ne parlera pas de Mars dans cette émission, parce qu'on ne peut pas parler de tout, évidemment. Mais en tout cas, on essaiera de suivre également l'actualité de l'espace. 06 95 065 026. Et du coup, il y a même Peggy qui nous dit, qui me demande si je veux moins avoir une puce dans le cerveau. Écoute, Peggy, si cette puce dans le cerveau me permet de gérer d'un point de vue technique la réalisation de l'émission sur Graphite, je suis prêt à me sacrifier pour cette émission. Sinon, je ne pense pas. On va... ce titre dans Futura Science, ça, c'est toujours efficace. Le titre de cet article, un astéroïde va-t-il s'écraser sur Terre le 2 novembre 2020 ? Donc, on a bien vérifié avec Mathéo tout à l'heure, c'est bien un lundi. Voilà, regarde, pourquoi pas ? Admettons, ça peut être sympa. Et donc, du coup, évidemment, quand on voit un titre comme ça, on a le réflexe de cliquer dessus, de savoir ce qui se passe. En fait, il faut quand même se rendre compte qu'il y a beaucoup de monde qui s'est emballé ces derniers jours avec l'annonce d'une possible collision d'un astéroïde avec la Terre. Et en plus, l'article nous dit, parce qu'effectivement, le 2 novembre, c'est la veille de l'élection présidentielle américaine. C'est vrai que c'est bien calculé. En fait, le 2 novembre, tu as le vaccin américain qui sort et tu as un astéroïde qui vient s'écraser sur toi. Donc, ça sert à rien, en fait. Enfin, je veux dire, coordonnez-vous, mes enfants, parce que alors là, franchement, on est en train de dériver totalement. Donc, il y a eu une petite effervescence ces derniers jours, et parce qu'immédiatement, on s'imagine qu'on va vivre un petit peu la même chose pour notre biosphère que ce qui s'est passé il y a 65 millions d'années avec les dinosaures, ou que cela va ressembler un petit peu aux scènes apocalyptiques de certains films de science-fiction, et on se dit que Bruce Willis, il commence à se faire vieux, donc on n'est pas certain qu'il va pouvoir nous sauver. Bref, c'est en train de s'emballer d'un point de vue médiatique, parce qu'on se dit, oulala, 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 un astéroïde va venir le 2 novembre 2020 rencontrer la Terre. En fait, non, il n'y a rien de tout ça qui va se produire. Nous n'avons rien à craindre de cet astéroïde qu'on a gentiment nommé 2018 VP1, tout simplement parce qu'il a été découvert en 2018. Il a été découvert le 3 novembre 2018. Peggy, c'est pas ton anniversaire d'ailleurs. Il est de taille modeste. Les observations réalisées lors de son précédent passage, il y a 2 ans, suggèrent en effet qu'il ne mesure pas plus de 2 mètres dans sa plus grande dimension. Ridicule, en fait. Et il n'y a pas de quoi inquiéter toutes les formes de vie sur Terre. Bref, s'il plonge quand même dans notre atmosphère, il n'y aura aucun dégât au sol qui ne sera déploré parce qu'il va se briser vite en petits morceaux. Ça va laisser derrière lui qu'une traînée de débris. Ces débris devraient s'abîmer dans une région peu peuplée ou alors dans l'océan. N'oublions pas qu'il y a 70% de la surface de la Terre qui sont les océans et les mers. Donc du coup, on est en train de se dire... Si ça tombe, ça tombera quelques débris, ça tombera dans l'eau. Mais les probabilités qu'il tombe justement sur Terre ne sont estimées qu'à 1 sur 240. Ça fait 0,4% d'après la NASA. C'est pas beaucoup. En fait, en réalité, les astronomes ont encore beaucoup d'incertitudes parce qu'ils ne possèdent encore qu'une poignée de jours d'observation. On n'a pas encore eu le temps de bien définir sa trajectoire. Nous avons besoin d'au moins 3 points de données pour estimer l'orbite, la trajectoire d'un objet, mais cela ne nous donnera encore qu'une estimation très approximative. C'est ce qu'explique dans l'article The Conversation John T. Horner de l'Université de Queensland. Plus nous pouvons obtenir d'observations et plus la période de temps est longue, mieux nous pouvons fixer l'orbite. Mais oui, mais c'est comme tout en fait. Enfin, je vous ai dit, le mot de cette saison, c'est patience. Donc là, effectivement, plus on prend le temps d'analyser, plus on aura d'informations fiables, précises, plus on aura une trajectoire qui sera donc définie, et plus on se rendra compte qu'il fallait quand même se dépêcher avant que ça tombe sur notre coin de la figure. Concernant cette période orbitale, notre incertitude est environ 12 heures. Mais il nous rassure, il dit que c'est plutôt bon, donc ok, on va le croire. Pour l'instant, les chercheurs ne peuvent déterminer que le volume d'espace dans lequel ils ont la certitude de le trouver est encore totalement imprécis, et que ce volume d'espace mesure environ 3 700 000 km de diamètre. C'est quand même un périmètre assez large, donc en fait, pour l'instant, en fait, ils n'en savent rien, quoi. C'est ça, toujours un petit peu ce qu'il va falloir prendre en considération. Mais comme on l'a dit, même s'il arrive sur Terre, il y aura quand même très très peu de dégâts. Et donc du coup, le 2 novembre, faites attention, ça peut être intéressant, on suivra ça bien sûr, de voir un petit peu le résultat de tout ça. Ça se trouve, il va passer à 3 700 000 km de nous, on verra rien du tout, ça sera ridicule, mais on s'en moque, c'est un lundi, on sera au travail bien évidemment. Bien évidemment, on verra ça sur l'antenne de Graphite. Je suis en train de cliquer parce qu'en même temps, on m'envoie des SMS, mais assez longs, j'ai pas le temps de le lire. Mais je vais lire ça pendant un petit titre qu'on va écouter et puis on va se dire au revoir. Je me rends compte en fait qu'on va parler de la moitié des articles que l'on avait prévus dans cette émission. Mais il est déjà 12h52, ça passe à une vitesse, mes enfants. Allez, on écoute un dernier titre, il s'agit de Angus et Julia Stone sur l'antenne de Graphite. On se retrouve juste après pour le dernier article que nous allons évoquer dans cette émission. À tout de suite.
It's been days now and you change your mind again. Feels like years and I can tell how time can bend your ideas. And the boys go on and on and on and on. And the boys go on and on and on and on. And there's gold from the ceiling of this world, falling from the heartbeat of this girl, falling from the things we should have learned, falling from the things we could have heard. Well, it's been days now and you change your mind again. Oh, the cracks in the walls remind you of things we said. And I could tell you that I won't hurt you this time. But it's just safer to keep you in this heart of. The heartbeat.
Boys, c'était Angus et Julia Stone sur l'antenne de Graphite. Et on remercie Mathéo qui nous a permis de découvrir ce groupe, en tout cas pour moi, sur l'antenne de Graphite. Maintenant, je sais comment faire la programmation musicale. Ça fait 10 ans que je suis derrière le micro et maintenant je sais. Ah, mais je pense que je vais garder l'antenne maintenant 4 heures, où je vais faire 3 heures de musique et 1 heure quand même d'actualité scientifique. Il ne faut quand même pas pousser. Il est 12h57, il nous reste donc une poignée de minutes. On va juste terminer avec cette alerte de la revue 60 millions de consommateurs qui se demandent quel est l'impact sur la santé et l'environnement des substances au nom souvent prononçable qui entrent dans la composition des produits cosmétiques. La revue, donc 60 millions de consommateurs, a relevé dans une étude jugée anxiogène par le secteur de la cosmétique, a donc relevé des ingrédients potentiellement cancérogène ou polluant. Il est 12h57, je vais me lancer dans la prononciation du butylcarbamate d'hydroprolyl, de la couramine, du butylphénylméthylpropional, du dioxyde de titane. Bref, c'est difficile de s'y retrouver dans la liste des ingrédients de ces produits cosmétiques qui garnissent un petit peu nos étagères et nos trousses de toilette. Le magazine 60 millions de consommateurs a donc publié il y a quelques jours une étude sur 86 produits de plusieurs catégories d'utilisation, des dentifrices, des crèmes, des gels douche, des vernis à ongles, des crèmes hydratantes, des fonds de teint, des mousses à raser, et ils l'ont accompagné de ce qu'on va appeler un cosmétoscore qui va les évaluer sur une échelle de A à E, c'est-à-dire A, il n'y a pas de réserve d'utilisation, et à E, utilisation fortement déconseillée, produits contenant trop de substances problématiques. Alors comment s'effectue la notation ? Eh bien c'est en fonction des ingrédients qui sont indiqués sur l'emballage et de leur impact sur la santé et sur l'environnement. La place de l'ingrédient dans la composition du produit comme la façon d'appliquer le produit joue énormément dans la pondération de la note finale. C'est ce qu'a précisé lors d'une conférence de presse la rédactrice en chef de la revue Sylvie Metzler. Pour autant, cette notation n'est pas une évaluation de dangerosité, c'est ce qu'a complété Emmanuel Chevalier, qui est ingénieur à l'Institut National de la Consommation. Il s'agit d'une évaluation des risques, et quand on parle d'un produit noté E, donc E, on a dit fortement déconseillé, cela signifie que l'utiliser va augmenter la probabilité de développer une problématique pour la santé, ou alors que cela ait un impact sur l'environnement. Mais voilà, donc on pondère un petit peu. Il pondère un petit peu parce que alors, la Fédération des entreprises de la beauté, qui représente donc les entreprises cosmétiques, s'est empressée de rappeler dans un communiqué que tous les produits cosmétiques vendus en France respectent la réglementation cosmétique européenne, qui est la plus stricte du monde. Tous les produits cosmétiques mis sur le marché en France sont sûrs, autorisés et contrôlés. C'est ce que martèle le président de cette Fédération des entreprises de la beauté, qui s'appelle Patrick Auquin, dans un communiqué. Il ajoute que les industriels réalisent aussi en permanence des efforts considérables de recherche et développement pour développer des produits toujours mieux tolérés, plus efficaces et respectueux de l'environnement. Bref, ça a fait une bombe, cet article de 60 millions de consommateurs dans l'industrie de la cosmétique. Peut-être parce qu'on le vaut bien. Mais en tout cas, faisons attention. De toute façon, vous êtes comme moi. Quand on achète ne serait-ce qu'un shampoing ou un savon, on a quand même une liste faramineuse de noms de produits qu'on ne sait même pas ce que c'est, on ne sait même pas à quoi ça sert. Et donc, du coup, si vous êtes intéressé par ce sujet, je vous incite donc à lire l'article de la revue 60 millions de consommateurs pour en savoir plus. Et notamment, ils ont aussi désigné, ce qu'on ne fera pas dans cette émission parce qu'on arrive à la fin, mais ils ont désigné carrément des articles, des marques précises. Voilà. Et donc, du coup, bien sûr, les professionnels, ça grogne un peu, bien évidemment. Parce que, comme tout, dans cette émission, on en parle souvent, il y a la science, il y a la technologie, il y a la recherche, et puis il y a aussi une question d'argent derrière. Mais c'est notre société moderne, mes enfants. Il est 13h, c'est la fin de cette émission. Merci à tous pour votre fidélité et votre attention. On se quitte pour se retrouver samedi prochain. À 12h, je vais y arriver sur l'antenne de Graphite. J'étais en train de voir qu'il me restait quand même pas mal d'articles que je vous avais promis, mais voilà, qu'est-ce que vous voulez. On a été bavard, peut-être un petit peu trop que les années précédentes, mais c'est normal, c'était l'émission de la rentrée, et on avait beaucoup de choses à découvrir en plus en direct. C'était un plaisir pour moi de vous animer cette émission. Je vous retrouve samedi prochain sur l'antenne de Graphite. D'ici là, bien évidemment, vous nous suivez sur le 94.9 sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoute en direct ou en différé, avec la possibilité de pouvoir télécharger tous les podcasts de toutes les émissions. Comme le dit si bien mon gentil logiciel sous les yeux, je rends l'antenne et je vous redonne rendez-vous samedi prochain. Bonne journée à tous, au revoir.